17h30, alors que les citadins s'entassent dans les transports en commun, c'est l'heure de la traite pour Caroline. Dans un bruit de clochette, cette Heidi en jupette rose rentre ses chèvres à l'étable. « Allez, allez les filles » lance-t-elle en dévalant le pré, silhouette musclée et bronzée de 25 ans, suivie de ses 100 jolies demoiselles gorgées de lait et la queue en houppe, chacune portant son nom au collier. Tout autour, les montagnes du Beaufortin, couronnées d'un peu de neige encore, du verre, des chalets et de l'air pur. Une carte postale.
Ces terres-là, elles vont être artificialisées.
En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes.
Vous avez le capital.
Acheter des forêts pour enraciner vos placements.
Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser, de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, bah...
Ils continuent à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
L'appareil policier a procédé à des perquisitions et des interpellations auprès de 9 personnes.
Du pain et des parpaings !
Du pain et des parpaings.
Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
Un ensemble d'actes de désobéissance civile, volontaire et réfléchie.
Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
Le fantasme de la bergère qu'on a entendu avant le générique, c'est une citation exacte d'un article de la revue Marie-Claire d'il y a quelques années intitulé « La relève des jeunes agricultrices valeureuses ». Dans lequel on retrouve, notamment parmi la dizaine d'agricultrices présentées, deux Miss France agricoles. Ainsi que d'autres phrases du genre « Une jolie fille en botte, ça change du vieux célibataire sur son tracteur ».
La bergère et sa jupette, la fermière et son panier d'œufs, la laitière et ses joues rouges, ça ne fait pas si longtemps que l'on a dépassé cette image des agricultrices véhiculées dans les livres, les revues, les blagues grivoises et les chansons à boire. Même si, visiblement, elle existe toujours.
En quelques décennies, il y a eu des combats syndicaux, des avancées juridiques, MeToo, des manifs, des slogans, des discours, de multiples secousses qui font qu'aujourd'hui, par chez nous, une agricultrice peut être reconnue comme telle, obtenir un prêt, être propriétaire de ses champs, de ses outils.
La question du genre, c'est une question présente partout, sur l'oreiller, dans le moteur du tracteur, les instances, les coopératives, sur les marchés, chez le notaire, au café, au dessert. Et on s'est beaucoup demandé sur quel pied danser, par où commencer, ce qu'on pouvait laisser tomber, ce dont on devait parler.
Et du pain et des parpaings étant une émission de lutte contre l'accaparement des terres, là pour le coup, on était sûr du lien. Entre les corps des femmes et les terres colonisées, la logique d'appropriation est bien la même.
On l'entendra, il sera question à la fois de port de charge et de cycle hormonal, de légitimité, d'autocensure et d'émancipation.
On devait préparer cette émission avec une paysanne en cours d'installation qui n'a pas pu travailler avec nous, faute de temps. En cours de route, nous avons aussi fait appel à des paysannes et à des salariés d'associations et syndicats qui accompagnent des agricultrices sur la question du genre en agriculture afin de mettre le doigt sur les freins et d'éclairer les leviers. Cette émission a dû être plusieurs fois reportée, faute de disponibilité en ces beaux jours de soleil et de début du printemps et l'activité que ça génère dans les fermes et dans les champs. Mais aussi avec des paysannes qui ne se sont pas senties légitimes pour venir parler ou en tout cas qui estimaient qu'elles n'avaient pas beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et comme ça nous semblait symptomatique, et ben on a tenu à vous le dire pendant cette intro.
Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cet ordre, d'abord aborder les freins et puis s'enthousiasmer sur les leviers. Dans cette 17e émission de Du pain et des parpaings, où on est en compagnie de...
Marion.
Romain.
Elsa.
Et nos invités.
Alex.
Valérie.
Marianne.
Mathilde.
Et bien, bienvenue à toutes. Est-ce que pour commencer, vous seriez d'accord pour vous présenter en quelques mots ?
Donc moi, c'est Alex. Je travaille au groupement des agriculteurs et agricultrices bio du Finistère. Et je suis chargée de communication et chargée des missions égalité femmes-hommes.
Bonjour, Valérie, je suis paysanne bio à Brest. Je suis également engagée dans le réseau, je suis présidente de la Maison de la Bio et j'ai surtout un mandat national aujourd'hui sur le sujet de la parité au niveau de notre réseau de l'agriculture biologique.
Bonjour, moi c'est Marianne, je suis stagiaire au groupement des agriculteurs et agricultrices bio du Finistère et spécifiquement sur les missions égalité femmes-hommes.
Salut, moi c'est Mathilde, je suis pépiniériste à Trébabu depuis 3 ans maintenant en bio.
En 1976, 67 ans après les salariés, les paysannes ont un congé maternité. 14 semaines pour les salariés contre 14 jours pour les paysannes. En 1986, le congé est allongé. 16 semaines pour les salariés contre 8 semaines pour les paysannes. À minima, l'élevage s'annonce intensif.
Voilà. Ce poème d'Aurélie Olivier dans le recueil « Mon corps de ferme » illustre bien le décalage qui a régné jusqu'à très récemment en France entre le droit des travailleuses agricoles et celui des travailleuses des autres secteurs.
Et jusqu'aux années 70, la place des femmes dans les fermes est exclusivement celle d'épouses qui s'occupent de la maison, de la famille et qui aident sur la ferme. Ferme gérée par l'homme, traditionnellement chef d'exploitation, qui se transmet de père en fils. On considère que ces femmes ne travaillent pas, elles aident. Les tâches exécutées au champ et à domicile sont invisibilisées.
Ce non-statut impose une dépendance financière totale des femmes d'agriculteurs, puisqu'elles n'ont aucun droit sur l'argent issu du travail auquel elles participent. Elles n'ont pas non plus de droit à la sécurité sociale ni à la retraite, puisqu'elles sont considérées sans profession. De fait, sans accès à des ressources extérieures, ces femmes étaient sous la tutelle de leur mari.
Les mouvements sociaux et féministes des années 60 vont pousser les femmes à réclamer une place égale à celle des hommes sur les exploitations agricoles et à revendiquer des droits égaux à ceux des autres travailleurs et travailleuses. Mais les lois et le regard qu'on leur porte mettra des années à changer.
C'est en 1962, avec la création des GAEC, Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun, que permet enfin un statut légal distinct de la situation matrimoniale pour les femmes agricultrices. Mais la loi interdit aux époux de s'associer, ce qui empêche aux femmes d'exploitants d'accéder au statut nouvellement créé. Il faut ensuite attendre 1980 pour que le statut de co-exploitante agricole soit créé. Elles obtiennent ça avec le droit d'accomplir des actes administratifs pour la gestion de l'exploitation, mais cela reste une identité professionnelle à partager avec leur mari et non un droit personnel.
La véritable avancée n'arrivera qu'en 1999 avec le statut de conjoint collaborateur qui ouvre le droit à une protection sociale à la conjointe participant aux travaux de l'exploitation. Toutefois, l'assurance vieillesse reste fortement désavantageuse pour celle-ci et pas que l'assurance vieillesse.
Ouais, quant au congé maternité, comme on l'a entendu dans le poème d'Aurélie Olivier, la Confédération paysanne obtient pour les femmes 8 semaines en 1986, quand celui des autres travailleuses est alors de 16 semaines depuis 1980. L'égalité des droits de congé maternité entre toutes les travailleuses françaises n'est arrivée qu'en 2010. Alors, du coup, on va parler peut-être un peu de ces statuts. Les statuts légaux des femmes dans les fermes, est-ce qu'ils sont réellement égaux aujourd'hui ?
Alors, c'est pas simple de répondre à ces questions-là, parce que c'est vrai que moi, je suis issue du monde extérieur. Quand je me suis installée, en fait, dans ce milieu-là, on s'est pas posé la question de passer en conjoint collaborateur, parce que c'est vrai que ce qui m'a tout de suite interpellée, c'était ses conditions sociales et ses droits à la santé, à la retraite, à la vieillesse, qui me posaient énormément de problèmes. Donc, en clair, j'ai vite compris que ce statut de conjoint collaborateur, en fait, n'était qu'un mot pompeux, pour lequel, en fait, ça assurait quand même un petit peu mieux des droits sociaux pour l'épouse, mais qui, pour le coup, posait quand même énormément de problèmes pour la femme si elle se retrouvait seule et qui ne lui assurait pas une vraie retraite.
Donc toi, Valérie, par exemple, là, tu as des revenus qui sont égaux à celui de ton...
Donc on voit
compagnon
parce qu'en
qui
fait,
est associé au même titre.
On s'est associé au même titre à 50-50 en co-gérance, voilà, parce que c'était naturel aussi pour mon conjoint que j'ai le même statut et que je puisse obtenir les mêmes droits dans la mesure où on partage le travail. Pourquoi on ne partagerait pas non plus ce statut-là et que ce ne soit pas uniquement une pièce rapportée et un petit nom sur un papier mais qui ne sert à rien.
Allô?
Oui, allô.
Est-ce que...
Joanne.
Super, tu nous entends?
Je t'entends, mais très loin. Donc moi, je suis paludière, ça veut dire que je suis productrice de sel. Je vais faire là ma saison de sel sur mon marais.
Alors, je suis Camille, moi je suis maraîchère, je suis installée depuis 8 ans, c'est la 8e saison là, donc je me suis installée en 2017.
Eh bien bonjour, moi c'est Marine, du coup je suis installée en maraîchage biologique dans le 44, depuis 6 mois. On est 4 associés, 3 femmes et un mec, à des âges différents qui s'étalent de 27 à 48 ans. Sur une ferme laitière où il y a encore de l'activité, du coup, ils sont 3 éleveurs en transformation bio aussi. Donc on est 7 sur la ferme en fait. Voilà.
C'est vrai qu'on a souvent du mal quand même encore à être parfois prise au sérieux. Ou par exemple, moi à mon échelle, parfois j'ai l'impression que certains de mes collègues pensent que je travaille pas vraiment, quoi. C'est pas vraiment sérieux ce que je fais avec mon petit marais et mes petits paquets de sel, quoi.
Ce que je pense, c'est qu'en moi, quand même, il y a quelque chose qui est inscrit, sans trop savoir, comme je disais, d'où ça vient, si c'est vraiment de l'extérieur ou si c'est en moi, mais le fait d'être une femme et de vouloir faire du maraîchage, l'espèce de pression de montrer toujours que je suis capable et que je vaux quelque chose et que de refaire plus pour, entre guillemets, contrebalancer le fait d'être une femme. Et je pense que ça... Je l'ai fait sans en avoir conscience pendant plusieurs années. D'être dans la force et dans vraiment mettre beaucoup d'énergie, dans la rapidité, dans l'efficacité. Et c'est, je pense, une des choses qui a joué sur le fait que l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait un burn-out. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même un truc de montrer, prouver que je suis capable.
Je pense que c'est un peu comme toutes les paysannes, et puis voilà, où en fait souvent on pense justement que je ne travaille pas toute seule et que j'ai sûrement un compagnon ou un mari caché quelque part qui m'aide.
En lien avec l'agriculture, j'ai la sensation d'avoir été l'agriculture dans mon corps entier pendant toutes mes premières années depuis l'installation, mais aussi pendant les 2 ans de parcours à l'installation et encore avant en tant que salarié. Et donc là, j'avais ma dose du monde agricole et de l'agriculture, et donc j'ai cherché au-delà, assez rapidement.
Je remarque que les éleveurs, souvent, des fois, ils ont mal un petit peu, puis ils tardent à prendre rendez-vous, quoi. Et je sais que l'ostéo, faut pas y aller quand t'es coincé, sinon c'est chez le kiné qu'il faut aller, quoi. Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est mon médecin généraliste, quoi. Enfin, ouais, je préfère y aller en prévention et puis remettre des choses en place, de regagner des degrés de liberté, parce que y a des gestes mine de rien qui sont quand même un peu répétitifs. Et puis après, c'est comme c'est le secret pour tout, faut bien dormir, bien manger. Prendre du repos, et ça on s'est dit dès le départ qu'on allait prendre des vacances la première année, parce qu'il y en a qui se crament, il y en a beaucoup qui se lancent tout seuls ou même en collectif réduit, mais en fait qui sont à 300%, et puis en fait ils se disent ouais, mais année 2, année 3 on prendra des vacances. Non, il faut en prendre dès le début, sachant qu'on a 2 ans de montage de dossiers et de préparation avant. Si tu prends pas de vacances, c'est un travail au long cours, c'est tout un nouvel apprentissage et on va apprendre toute notre vie, donc juste c'est normal de prendre ce temps là quoi. Et donc ça, c'est aussi nouveau, je pense. Enfin, nouveau, je sais pas, mais il y a des gens qui fonctionnent depuis très longtemps et qui prennent très peu de vacances. Ils sont très fiers de le dire. Tant mieux s'ils fonctionnent comme ça, mais moi, je pense qu'il faut se préserver.
Le fait de mener, en fait, mon marais, tout ça, je l'ai adapté à moi. Donc, je me sens quand même relativement autonome, parce que j'ai fait un marais à ma taille, puisque c'est moi qui l'ai fabriqué.
Je sais que je reprendrai pas le métier comme je faisais avant, 200%, nos limites, toujours plus, je peux toujours mieux. Et bon, c'est intense, mais bon, c'est ma vie. Et c'est intéressant aussi. Il y a aussi des cadeaux dans le paquet.
Après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on n'allait peut-être pas faire ce métier-là toute notre vie non plus, même si c'est une reconversion. On s'est dit qu'on allait monter un outil, faire le temps qu'on faisait dessus, et qu'il fallait qu'on se remette à jour régulièrement si on était toujours OK, et du coup faire attention à ce collectif-là et de se dire c'est toujours dans mes objectifs, c'est toujours dans mes valeurs, je m'y retrouve. Et puis, quitte à avoir créé un truc pour que, bah, en fait, voilà, d'autres personnes rentrent et que ça pose pas de problème et que ça perdure et pas que ça s'arrête parce qu'une personne s'arrête, quoi. Enfin, c'est l'enjeu de durabilité aussi de penser le truc sur un peu plus long terme et que ça dépasse l'individu. Enfin, voilà.
Le fait d'être une femme, une personne non-binaire ou une personne trans est une identité totale à laquelle on est renvoyé dans tous les aspects de la vie sociale et intime. Alors on a dû faire des choix dans nos montages, mais on aurait aussi bien pu vous faire entendre des difficultés liées au manque de temps pour s'épanouir dans des relations affectives, amoureuses ou sexuelles, à la reconnaissance d'être une agricultrice quand on aime se maquiller, à la pression exercée sur la conduite de tracteur ou le port de charge qui pèse sur le bas du corps et présente des risques de descente d'organes par exemple. On aurait pu entendre parler du besoin de se nourrir d'autres milieux que du milieu agricole pour ne pas être l'agriculture dans son corps, comme nous disait Camille, ou encore de la difficulté d'être lesbienne et systématiquement considérée comme en couple avec son associé. Alors entre ce qu'on a écouté dans les montages et là ce qu'on vient un peu de lister, qu'on avait comme son mais qu'on n'a pas choisi de garder pour vous laisser aussi de la place dans cette émission, est-ce que vous, dans vos pratiques, vous rencontrez des difficultés qu'on a entendues, des freins qui sont similaires ou qui sont différents?
Ouais, moi la particularité c'est que je suis installée, donc je suis seule sur l'exploitation, donc quand je suis confrontée à des hommes, c'est surtout sur les marchés, que ce soit, enfin des remarques sexistes, c'est surtout sur des marchés, que ce soit les autres commerçants ou des clients. Et bon, bah, y a tout genre de phrases bien sympathiques, à commencer par « bonjour mademoiselle » auquel je réponds « moi c'est madame », tout simplement. Mais après, il y a des remarques, enfin en fait c'est du sexisme ordinaire et il faut à chaque fois répondre sans se mettre à dos non plus les autres commerçants avec qui on travaille au quotidien. Après, il y a la question de la légitimité aussi. J'ai l'impression qu'en bio notamment, il y a énormément de femmes parfois sur des petits projets et que du coup arriver à être légitime et à se dire bah en fait c'est pas parce que j'ai un hectare de terrain que c'est pas important ce que je fais et que je suis pas une agricultrice. Et ça fait partie des nombreux de l'autocensure qu'on se met à soi-même aussi parfois face à des gros agriculteurs avec leurs gros tracteurs.
Je peux compléter de dire que moi en fait quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai constaté rapidement en fait qu'on était dans un monde très patriarcal, c'était vraiment en lien avec l'histoire de notre pays. En fait, c'est assez culturel, mais très fort en fait dans ce monde agricole. Et c'est pour ça que dès le départ, en fait, j'étais très très intéressée par le sujet de la parité, de la mixité. D'une part, parce que dès que je me suis engagée au GAB, j'ai constaté aussi que j'étais une des seules femmes à être présente au conseil d'administration. Et que du coup, c'était pas simple en fait d'évoquer ce genre de sujet. Et que réellement, au quotidien, quand même, sur la ferme, je voyais que les relation avec les hommes était quand même pas si simple que ça et que pour faire sa place c'était loin d'être évident. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en a fait un projet et que pour le coup on avance aujourd'hui là-dessus. Voilà, après je pense que ça reste aussi très caractéristique d'une société qui pour le coup aujourd'hui est toujours en difficulté par rapport à la mixité et que voilà, on se bat dans le monde agricole, mais je pense que c'est aussi le cas dans d'autres domaines.
Ouais, je voudrais rebondir sur la question des ports de charge et de la force qui est souvent remise en question. Moi, mes des voisins commerçants, parfois, pour bouger des carrioles ou quoi, ils vont aller demander à un autre vieux de 60 ans qui a une côte cassée plutôt que me demander à moi en me disant « Non, mais toi, t'as pas de force, tu t'es vu. » Et alors qu'au quotidien, ben moi, les sacs de terreau, ils font 70 litres. Quand ils sont mouillés, ils sont lourds et en fait, je le fais. Enfin, voilà, il y a un peu cette dissonance entre ce que les gens de l'extérieur ne croient pas capable et ce qu'au quotidien, on doit faire, quoi.
Et Valérie, tout à l'heure, tu disais que tu étais engagée depuis pas mal de temps sur la question et que ça te tenait à cœur. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es engagée là-dedans et en quoi ça a consisté?
Il y a eu un bon concours de circonstances, c'est-à-dire qu'en fait notre réseau au niveau de la FNAP, qui est notre fédération nationale, s'est interrogé sur le sujet parce qu'en fait on avait eu la chance à ce moment-là aussi d'avoir un autre stagiaire en sociologie qui avait fait une étude et on constatait en fait ce que vous avez dit en introduction, que même en agriculture bio, en fait les femmes qui étaient présentes sur les fermes avaient tendance à récupérer plutôt les tâches liées déjà à la maison et aux enfants, et particulièrement les tâches administratives. Donc on en a fait un fil rouge qui date de 2018 en se disant qu'il fallait faire bouger les choses et de monter en puissance en fait les paysannes qui étaient assez invisibles même en bio. Voilà, donc c'est vrai que quelque part, on a un peu essayé de mettre en avant un peu toutes les difficultés. Vous en avez parlé là, à la fois vous dans vos propos, mais aussi dans les témoignages. Donc ça reste toutes ces difficultés d'avoir une place. Après, il y a ces difficultés propres liées quand même au corps de la femme. Et on a énormément à faire pour qu'on adapte mieux aussi les outils, etc. Et de faire en sorte, en fait, que, bien évidemment, on peut avoir aussi la même force, mais dans le temps, on use davantage. Et dans les années qui arrivent, enfin qui suivent, on a aussi des problèmes de santé qui ne sont pas anodins et c'est lié au fait en fait que tout est adapté rien que pour l'homme et pas du tout pour la femme. Et puis ensuite, je souhaitais aussi voir beaucoup plus de paysannes avec moi dans les instances en fait, parce que c'est vrai aussi que je pense qu'on fera bouger les choses aujourd'hui quand les femmes prendront leur place. Et aujourd'hui on se constate que dans les instances qui représentent l'agriculture ne sont présents dans les bureaux que des hommes, et pour qu'on change il faudra aussi que les femmes y soient, c'est elles qui prendront les décisions.
Au cours de la journée et de la soirée du récent festival de Bretagne contre les fermes-usines, on a rencontré une éleveuse de vaches pinoires et deux maraîchers maraîchères. Et on leur a demandé si l'agriculture était un milieu parfaitement égalitaire. Si finalement tout était parfait et qu'il n'y avait plus rien à faire pour combattre le sexisme.
L'entreprise de travaux agricoles, c'est que des hommes. Le boucher, c'est un homme. En fait, je suis entourée par des hommes.
Il est où votre père ? Je dis, mon père est retraité, dans le sud. Ça va pas vous aider. Ah, bon. Il est où votre mari ? Ah, j'en ai pas. Grand moment de doute de la part du président de la Fédération de chasse qui ne comprend pas. Il dit, bon, il est où le patron ? Je dis, écoutez, il n'y en a pas. Mais c'est moi qui vous ai appelé, quoi. Ah bon ?
On participe à la CUMA locale pour du matériel. Nous, on a besoin des fois de télescopique, on a besoin de matériel quand même pour travailler. Donc du coup, c'est toujours c'était un peu impressionnant. Tu débarques, tu connais pas grand monde et c'est que des gars et...
On leur a demandé si, chez les notaires et avec les clients, la relation était parfaitement égalitaire.
Il y a une AMAP, une ville un peu station balnéaire de yeuves retraités riches. Et alors là, vraiment, c'est les seules fois où vraiment ça m'a fait chier, quoi. La question du genre. Autant les autres, j'arrivais à capter, j'étais pas surprise, mais eux, ils m'ont vraiment pété les couilles. Et ils me pètent encore les couilles.
Dans les amis autour de moi, il y en a, quand ils sont en couple, le technicien va plus s'adresser à l'homme.
Si le milieu politique lié aux questions agricoles était parfaitement égalitaire.
Les dernières élections, c'est une femme qui a été élue à la mairie. Et on a pas mal parlé de politique agricole locale. Et en off, elle m'a dit, mais c'est ouf. Elle m'a pas dit ça, elle m'a pas dit c'est ouf, mais elle m'a dit c'est surprenant. J'ai l'impression de pas être écoutée parce que je suis une femme. Et j'étais en mode, oui, bienvenue. C'est évident.
Il y a des trucs qu'il faut qu'on apprenne en fait tout le temps. Et il se trouve que dans notre collectif, nous on est trois meufs, donc du coup à un moment il faut pas se dire tiens c'est le gars qui va tout faire, enfin c'est pas du tout quelque chose, enfin on s'est dit dès le départ qu'on allait être équivalents et les buts c'était de pas être irremplaçable, c'est des trucs un peu des fois qu'on se dit la mécanique qui s'occupe de l'entretien
puisqu'apparemment subsistent encore des braises du patriarcat. On a demandé à Léo, Émilie et Marine quels étaient leurs outils pour les éteindre, ces braises, et ce qui les aidait à affronter les inégalités de genre dans leur milieu professionnel.
Moi, j'ai fait une formation tronçonneuse avec le CIVAM 44 et c'était vraiment trop bien. Et en plus, on s'est revu avec le groupe et du coup, c'était... Et en plus, on l'a fait à la ferme du coup, puisqu'on était 3 du coup sur les 8. Donc c'était top. Et sinon, j'avais fait une formation tracteur. Donc ça, c'était quand j'étais dans le 35. Mais c'est top. Enfin, moi, je trouve ça... Il y a un truc qu'on laisse tomber un peu nos valises, nos barrières, et on pose vraiment toutes les questions connes. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on vit tous les mêmes trucs inconsciemment, que c'est pas nommé, mais que c'est super important d'être dans des espaces où on se sent bien. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, on se met un peu la pression en tant que néo et aussi en tant que femme.
On leur a demandé quels étaient leurs abris.
Ah si, en tant que femme, c'est marrant, mais on a parlé aussi du potentiel congé menstruel. En se disant, s'il y a des moments où on a des baisses d'énergie ou qu'on n'est pas bien, autant on se le dit et puis c'est tout, quoi. Enfin,
quels étaient leurs horizons ?
Le compagnon que j'avais à ce moment-là a voulu m'accompagner en mode, je vais venir avec toi, quoi. Parce que peut-être que comme t'es une femme et que tu vas dans le GAEC où ils sont deux gars, je vais venir. Je fais non, tu... Déjà, de un, je t'ai pas demandé de venir, et de deux, j'y vais toute seule. Moi, le fait d'être seule, de toute façon, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils me parlent à moi ou ils me parlent dans le vent. Donc, en fait, ils me parlent à moi.
Et quelles étaient leurs stratégies?
Ça se voit pas au micro, mais il y a aussi le fait que j'ai des piercings, des tatouages et des coupes de cheveux chelous. J'ai une gueule de grosse queer à cap de la campagne, genre sketch de moi-même un peu, quoi. Et du coup, moi, j'ai un peu fait la technique de l'esquive. Ça faisait 2 ans et demi que je m'occupais de Stamap, et en fait, je me suis barrée. Et je l'ai refilé à Benoît, qui est un garçon grand blond avec des yeux bleus.
Parpaing, une émission en bleu et rose.
Et rouge et noir aussi.
Arc-en-ciel ?
Avec des paillettes ?
Avec des paillettes.
Alors, on retourne sur le plateau avec toutes nos invitées et on va lancer cette deuxième partie avec les organisations collectives. Pour vous, comment l'organisation collective permet de dépasser et d'affronter ces problématiques liées à la perception du genre féminin dans le monde agricole? Alexandra, peut-être?
Alors, donc, au niveau du groupement des agriculteurs et agricultrices bio, on a mis en place des groupes de paysannes, donc des groupes en non-mixité, depuis 2020. Donc, on a plusieurs groupes sur le département, et en fait, lors de ces groupes, on retrouve vraiment beaucoup de choses qui ont été dites dans les audios qu'on vient d'écouter. Et on se rend compte que les femmes ont beaucoup de mal à trouver leur place dans un monde qui est vraiment très masculin, très patriarcal. Et donc, voilà, le fait de se retrouver en non-mixité, ça permet déjà de discuter tout simplement de ça, de faire des constats. De se dire, ah ben oui, tiens, moi, ce que je ressens finalement, il y a d'autres personnes qui y sont confrontées. Et voilà, déjà de comprendre les mécanismes, c'est une première étape en fait. Et suite à ça, les paysannes, elles décident d'avancer sur des sujets. Donc il y a des sujets qui sont choisis. Donc en fonction des groupes, certaines ont choisi par exemple de travailler sur la réponse aux remarques sexistes, d'autres sur la confiance en soi, d'autres sur la charge mentale. Et chacune, en fait, partage ses expériences et puis en fait profiter les autres. Voilà, ça se passe de façon assez fluide, en fait. Et puis, surtout, ça permet aussi de se dire à un moment donné, là-dessus, c'est bien d'échanger entre nous, mais on aurait besoin d'aller un peu plus loin, de gagner en compétences et puis de se former sur certains thèmes. Donc c'est aussi ces lieux-là, les groupes en non-mixité, où les thèmes de formation sont définis. Et donc, voilà, ça débouche des formations en non-mixité qu'on organise aussi au GAB. Donc sur des sujets techniques, mais aussi sur des sujets plus larges, comme le travail et corps féminin, comme la confiance en soi, voilà. Et les formations techniques, ça va être sur l'utilisation de la tronçonneuse, la conduite de tracteur, l'entretien du tracteur. Donc des thèmes finalement où les femmes sont moins armées au moment de l'installation sur ces sujets parce que parce qu'elles ont eu moins l'occasion de pratiquer pendant leur stage, qu'on leur a donné moins l'occasion en fait, et que globalement elles osent moins aussi parce que il y a cette pression de la société qui laisse penser que les femmes ne sont pas capables de faire tout ça.
Ouais, je rebondis sur les formations en mixité pour en avoir fait quelques-unes. C'est vrai que c'est vraiment très chouette. Là, je pense à la formation de tronçonneuse où on était un gang de meufs avec des tronçonneuses à 15 dans le champ. C'était vraiment chouette, quoi. Et moi, après, je suis rentrée chez moi, j'ai appris des trucs à mon père, donc j'étais bien contente de pouvoir lui apprendre des trucs. Et je trouve qu'il y a aussi un truc qu'on se rencontre aussi en tant que personne et qu'en fait, on découvre des projets vraiment très chouettes. Et on se dit, ah ouais, trop bien, elle fait ça, moi aussi je pourrais le faire. Et je trouve que ouais, ça donne vraiment une force individuelle et collective.
Et du coup, la question, c'était un peu dans quelle manière vous vous inscrivez dans des actions collectives. Du coup, le GAP, tu parlais, Alex, des déclinaisons un peu de ce que vous pouvez mettre en place comme outil pour les femmes paysannes et qu'elles s'en emparent. Mathilde, tu parlais des formations. Valérie, est-ce que tu as des exemples d'actions plus collectives au-delà de l'échelle individuelle auxquelles tu as participé ?
À travers ton mandat aussi, c'est
oui,
ça ?
Oui, je voulais compléter. Alors du coup, Alex vient de présenter et Mathilde en a parlé de ce qui se passe au niveau plutôt local, départemental. En parallèle, on a mis en place aussi un projet au niveau national où toutes les paysannes en fait, des différents coins de France peuvent participer. Et on a appelé ça pépinière. En fait, le but, c'est de mettre des petites graines et de faire pousser vite, permettre en fait, aux paysannes de monter en puissance pour pouvoir en fait, rentrer dans les instances. Et là, pas du tout en fait, lié à la ferme particulièrement ou à son quotidien, mais de pouvoir rapidement en fait, pouvoir prendre la place dans le conseil d'administration de son GAB, pourquoi pas d'entrer au bureau et faire en sorte que notre réseau aussi devienne paritaire au niveau de nos instances, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est cette formation-là, parce que c'est aussi un peu de la formation, elle est que ouverte aux femmes, parce qu'il y a ce besoin-là, en fait, d'être entre nous. C'est un peu surprenant qu'aujourd'hui, en 2024, ce soit toujours le cas, mais réellement, on ne peut pas faire autrement, et c'est là où on sent, en fait, qu'on peut s'exprimer et faire entendre un peu nos besoins. Et du coup, on forme, en fait, les paysannes aussi à tous les problèmes liés à l'agriculture, toutes les instances qui existent, tous les dispositifs. Là, on parle beaucoup de la LOA, la loi d'orientation agricole. C'est des choses complexes qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser quand on est sur les fermes. Et cette pépinière permet rapidement de monter en puissance et d'apprendre en fait, les mécanismes et les informations importantes pour après essayer rapidement de rentrer dans un CA ou de devenir vice-présidente ou présidente.
Et on va maintenant traverser la France et partir à Grenoble pour écouter Javotte qui va nous présenter l'association Les Pépineuses qui monte un projet pour l'émancipation des femmes en parcours migratoire à travers un chantier d'insertion agricole.
Donc je m'appelle Javotte Chaumel, j'habite à Grenoble et je me définirais comme venant à la croisée du quand même une longue expérience en France dans tous les métiers du français langue étrangère et plus récemment une pratique salariée agricole à travers une petite bergère et dans une ferme et je dirais une grande curiosité pour toutes les pratiques d'éducation populaire. Donc l'association Les Pépineuses, donc elle a été créée en mars 2023, quoi, il y a un an en gros, et elle a pour objet de créer un espace, de proposer un espace collectif pour des femmes au parcours migratoire à travers une activité agricole. C'est grossièrement du suivi de culture en fruits, petits fruits et transformation, distribution des produits transformés et un peu de frais. Ça, c'est le projet agricole. Et il est associé à un projet d'accompagnement plus global, social, sociolinguistique, on nomme là pour le moment. Donc en gros, avec un gros outil avec la langue, transmission de la langue, donc langue pour interagir en gros, dans le quotidien. Après, un aspect plus interagir au travail, quoi, dans le cadre professionnel. Donc ça, c'est en gros la partie langue. Et puis après, on pense à un accompagnement individuel pour faire un petit suivi, voir où en sont les personnes. Repérer les besoins, réorienter sur toute la question de l'accès aux droits dans les structures pour lesquelles il y aurait besoin. À titre personnel, mon expérience du travail agricole, que ce soit, donc moi j'ai travaillé en tant que salariée agricole et en tant que bergère, Et je crois que j'ai été assez à la fois fascinée par les moments où j'étais dans d'activité physique avec d'autres femmes. Je crois que j'étais assez fascinée, je peux dire, et intéressée par ce qui se créait entre nous en partageant ces moments-là un peu physiques, parfois motorisés, parfois pas, mais en tout cas, je pense des activités que j'avais peu pratiquées personnellement. Et jamais entre femmes comme ça, et je crois que c'était déjà, je pense, un bon élan, et que peut-être en plus dans les choses de portage, dès qu'il y a un peu des questions de qui mobilisent de la force, je trouve que souvent entre femmes, du coup, il y a un truc de beaucoup s'organiser collectivement en fait pour porter, parce qu'on a moins recours, je pense, à des réflexes de force perso. Donc du coup, je trouve ça aussi assez agréable, quoi. Voilà, je pense que le travail agricole, en tout cas, bon, que par ailleurs j'aime en termes de sens, quoi, hein. Moi, c'est sûr que travailler la terre et tout ça, produire de la nourriture, ça, c'est de toute façon par ailleurs un domaine qui m'intéresse, donc que je trouve intéressant de mettre aussi de le proposer à des personnes qui sont sur un parcours d'insertion. Mais je crois que j'étais curieuse, enfin, attirée par l'idée que le fait de faire groupe entre femmes dans des activités qui mobilisent des compétences physiques et techniques, ce soit intéressant. Enfin, ouais, ça vaille le coup, quoi. Moi, je crois que je me mets vraiment à l'endroit de l'émancipation, mais parce que je pense que c'est plus ce qui me fait moteur, quoi, à titre personnel. Du coup, je me rends compte que oui, j'ai la sensation que c'est un espace collectif pour qu'on se déploie, qu'on se redresse, qu'on se renforce, qu'on produise des choses dont on est, qu'on est fier de produire par ailleurs, enfin, fier au bon sens du terme, mais qu'on est contente de produire, en tout cas, dans une société qui peine à produire ces choses. Et du coup, c'est vraiment, oui, je crois en le groupe, je sais pas, pour provoquer, de la transformation, de la remise en question du mouvement, du renforcement, puis là, en plus, du coup, de la sororité, des choses de, je pense qu'on mise beaucoup, beaucoup l'accompagnement là-dessus, hein, c'est sûr. Enfin, le projet, il est pensé avec ça, ouais. L'individuel, il est presque plus pour juste recueillir, faire des petits points, vérifier, en fait, que tout va bien, où on en est, s'il y a des points de complexité ou quoi. Mais sinon, c'est le groupe qui... Ouais, on mise beaucoup sur le groupe, je pense, en effet.
Alors, au début de l'émission, on a parlé plutôt des difficultés, des remarques sexistes, des choses qui pouvaient être... des freins ou des obstacles, et puis là on glisse plutôt vers les outils d'émancipation, ce qui fait du bien, ce qui rend fier, ce qui fait plaisir, parce que la réalité n'est pas encore tout à fait parfaite. Et tout à l'heure, Mathilde, tu disais qu'il y avait quand même plein de femmes paysannes en agriculture bio.
En tout cas, il y a plus de femmes à s'installer en agriculture bio qu'en agriculture conventionnelle, ça c'est sûr.
Et les chiffres, du coup
Et les chiffres, donc en agriculture bio, pour moi, on est au-dessus de 40% en bio, et on est plus près des 30% en agriculture conventionnelle.
Et du coup, ça montre comment c'est nécessaire, tout ce qui est mis en place, et puis aussi les paysannes elles-mêmes qui créent des outils pour s'émanciper de ça et aller vers l'égalité. Mais et qu'est-ce que vous pourriez recommander? Qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien, ou qu'est-ce que vous voyez le plus efficace en termes d'outils collectifs comme ça pour lentement s'acheminer vers une réalité plus juste?
En tout cas, on a encore besoin de féminiser l'image du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un métier qui est vu comme très masculin. Et pour faire changer les choses, et pour que les femmes prennent leur place dans ce métier-là et prennent aussi leur place dans les instances, il faut qu'il y en ait plus. Ça passe effectivement par l'image qu'on donne du métier.
Et donc déjà au moment de la formation, en fait. Enfin, et donc assez tôt, en fait,
oui.
Au lycée.
C'est ça. Aujourd'hui... En enseignement agricole, on a 50% des effectifs qui sont des effectifs féminins, sauf que ce chiffre, il est faussé parce que il comprend toutes les filières d'aide à la personne qui sont enseignées dans les MFR. Donc si on enlève finalement toute cette filière aide à la personne, qui pour le coup, à l'inverse, est complètement féminine, on a des effectifs en enseignement agricole qui restent encore aujourd'hui très masculins. Avec aussi des élèves aujourd'hui qui restent aussi dans cette mentalité de transmission de père en fils, de métier fait pour les hommes, de métier fait pour les hommes forts. Enfin, on a du mal encore à sortir de ces clichés-là et les filles qui sont dans l'enseignement agricole, on va plus facilement leur dire vous êtes là parce que vous voulez vous occuper de chiens, de chevaux, etc., mais pas d'agriculture, pas de vaches laitières, etc. Donc voilà, il y a encore au niveau de l'enseignement agricole du boulot pour faire changer les mentalités.
Est-ce que le GAB fait des interventions en lycée agricole par exemple?
Oui, on en fait, oui. Oui, oui.
Toi, tu as pu constater des choses sur les discours, sur des échanges avec des étudiants ?
Oui, alors bien souvent, en fait, pour eux, avant qu'on démarre la séance d'animation, il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de souci d'égalité en agriculture. Et puis, au fur et à mesure, quand on creuse un peu sur certaines questions, ils sont obligés d'admettre qu'effectivement... Il y a des choses qui sont pas égalitaires et il y a vraiment encore pas mal de travail à faire pour que les mentalités évoluent dans l'enseignement agricole.
Est-ce qu'on constate déjà des évolutions dans les années récentes là? On parlait des représentations des femmes dans les instances. Plus de prise de pouvoir, plus de confiance. Est-ce que aussi au sein du groupe femmes du GAB, il y a des retours déjà?
Au niveau des pépinières, c'était 2 sessions là, cette année et l'année d'avant. On constate que du coup, ça paye parce que les femmes repartent en confiance et n'avaient pas spécialement envie de rentrer dans leur GAB ou de prendre des responsabilités. Ils venaient un peu pour écouter. Et là, il y a plus de 50% qui ont pris des responsabilités. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne. Sur les groupes locaux, on est aussi un peu au démarrage. C'est quand même relativement long, en fait, de voir le résultat. Ça avance, mais on constate que les groupes continuent et sont aujourd'hui légitimes et reconnus. Et je pense que ça portera ses fruits. Il faudra quand même plusieurs années pour qu'on ait un peu les effets escomptés. Mais on ne doit pas lâcher de travailler sur ce projet-là et toujours faire comprendre aussi au sein de notre structure que ce sujet-là est important et qu'on ne doit pas le lâcher. On sait aussi qu'on doit trouver des financements pour pouvoir toujours pouvoir proposer ce genre d'outils, de formation, et que ça peut être aussi un peu vu comme un peu la dernière roue du carrosse. Si on n'a pas assez d'argent, ça va être priorisé sur autre chose, alors que réellement, on a besoin de prioriser ce sujet-là pour qu'on ne lâche pas et que ça avance.
Au niveau du GAB 29, pour compléter, donc on avait voté en 2019 une motion pour atteindre la parité dans notre CA. En 2022, on l'a renouvelée parce qu'il n'y avait eu aucun changement. Et aujourd'hui, on a un CA paritaire. Donc c'est vrai que quand on a mis les groupes en non-mixité en place, c'était aussi dans cet objectif de mieux connaître les agricultrices de notre réseau, parce que finalement, c'est un public qui vient moins en formation. Donc qu'on voyait moins souvent, qu'on connaissait moins bien, des personnes aussi qui se connaissaient moins bien entre elles et qui connaissaient moins bien notre structure. Donc le fait d'avoir cette dynamique de groupe en non-mixité, ça a aussi permis de renforcer un peu les liens entre les femmes et nos instances, et ça a permis d'atteindre la parité aujourd'hui dans notre CA, pas encore dans le bureau.
On va repartir en reportage parce que pas loin de Brest, on a rencontré Odile et Eve aussi, qui sont installées à Gouesnou, et donc elles nous font part de leur avis sur la condition féminine et aussi les libertés que donne le fait de s'installer entre femmes.
Une relation toxique avec elle.
Ah ouais.
Quand elle est avec lui, non. Il la repousse, et quand elle s'en va, il l'appelle.
Des fois, c'est décourageant quand même. Observer le monde animal.
C'est coup de cœur. Il ne t'aime pas vraiment, lui.
Moi, je m'appelle Audie. Comment me présenter? Je suis maraîchère en traction animale, en cours d'installation, à Gouesnou. Et marche! Allez! Super présentation. Quoi dire de plus? J'ai 30 ans. C'est une reconversion professionnelle, je pense que c'est important aussi. Et on est où? Ah oui, on est avec Ileana, du coup, moi je m'en prie. Ça, t'as vu, elle a bougé les oreilles, elle s'est reconnue. Et on se promène là dans un joli petit chemin creux de Gouesnou.
Quelles sont les difficultés, les obstacles qui subsistent à être une fille et se lancer dans l'agriculture?
Je pense que le principal obstacle, c'est ça va rester nous-mêmes. Parce que on a toujours, enfin du coup je dis on, mais je vois ça avec Eve, du coup avec qui je m'associe, cette espèce de manque de légitimité qui nous pèse tout le temps sur les épaules, et du coup on n'ose pas forcément faire les choses alors qu'on en est totalement capable. Donc je pense que c'est ça le principal obstacle, et du coup un peu ce rôle qu'on s'est donné et qu'on nous donne aussi de femmes avec des tâches et des métiers de femmes. Mais il faudrait que tu regardes, j'ai plus les chiffres en tête. Il y a un truc qui est assez significatif qu'on nous avait raconté. C'est au niveau du point accueil installation. Tout doux. Et doucement. Et t'as plus de femmes que d'hommes qui postulent. Et au final, à la sortie, il y a plus d'hommes. Et il y a des personnes qui s'interrogent quand même de pourquoi. Et je sais plus le pourcentage, mais c'est assez flagrant. Et puis y a aussi une histoire de issu du milieu agricole, non issu du milieu agricole, qui joue beaucoup.
Est-ce que le fait de travailler, de s'installer entre femmes, ça solutionne, ça facilite certaines choses?
Moi je trouve, ouais. Après c'est personnel, je pense, mais certaines barrières, par exemple les barrières de légitimité et tout, ça aide quand même pas mal d'être entre femmes. Au niveau de la communication, si c'est plus facile, je trouve, enfin, ça dépend des personnes, hein, mais je trouve que c'est un peu plus facile. Et après il y a des barrières, tu vois, l'accès au foncier, l'accès peut-être aux instances décisionnaires, c'est peut-être moins facile, tu vois. Mais moi j'ai la chance de ne pas être encore confrontée à ça, enfin un petit peu, pas totalement, parce que du coup je rejoins Eve.
Être entre filles comme ça, ça permet quoi en plus? Enfin, est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment si c'était avec un mec que tu étais sur l'exploitation?
Eh bien, peut-être que, tu vois, le partage des tâches, je le réfléchirais vraiment différemment pour être sûr que ça soit équitable. Enfin, et que ça soit pas des tâches genrées. Parce que typiquement, moi qui aime bien faire du bricolage et tout, mais qui n'ai pas trop confiance, très vite je peux laisser l'autre faire parce qu'il y a un peu plus confiance, quoi, alors qu'on est au même niveau de compétence. Peut-être que j'aurais fait plus attention à ça. Après, je pense pas que j'aurais fait les choses autrement. Si, y a peut-être des sujets de discussion qu'on n'aurait pas eu. Je sais pas. Tu vois, typiquement, sur le cycle menstruel. Avec Eve, on a pas mal d'échanges là-dessus parce que quand il y en a une qui commence à avoir son cycle, son SPM, forcément. Moi je comprends plus facilement quand elle est fatiguée, du coup je dis mais c'est pas grave, fais une pause, alors que peut-être qu'avec un homme ça aurait été peut-être plus compliqué d'échanger là-dessus. L'accès aux assos, aux instances. Non, je te vois. D'avoir la parole et être le visage de la ferme, l'interlocuteur principal, ça c'est souvent l'homme aussi, j'ai l'impression. Et là, du coup, vu qu'on est deux, on se partage un peu cette tâche-là, et c'est pas mal, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise à parler toutes les deux. Mais ça fait du bien aussi de se sentir écouté. Donc peut-être que ça, j'aurais peut-être fait un petit peu plus attention si j'avais été avec un homme. C'était la question on se posait la dernière fois. Moi je me posais pas trop la question, et puis finalement maintenant qu'on s'est trouvé un peu, je me dis que ça serait vachement plus dur en fait. Après ça dépend, pas rentrer dans les clichés et tout, mais
c'était pas un projet de base, genre je veux m'associer mais seulement avec avec des femmes, quoi.
Non, mais maintenant que c'est le cas, je suis vraiment contente. Je trouve que c'est vraiment plus facile. Et tu vois, on parlait de légitimité tout à l'heure. Et bien, je vais me sentir plus légitime à tenter des choses ou à dire des choses. Genre des trucs clichés de la femme. Enfin, tu vois, du bricolage, faire du tracteur. là, tu vas travailler avec le cheval. Mine de rien, c'est plutôt des activités et des tâches genrées hommes. Enfin, je sais pas trop si c'est les bons mots, mais... Alors que là, vu qu'on est toutes les deux, moi, je me sens vachement moins jugée. Donc, peut-être que c'est plus facile aussi. Voilà. J'imagine que c'est un peu
ça. Moi, je pense qu'il y a cette partie, comme on disait tout à l'heure, là, sur le fait de prendre la parole en public, en tant que femme et tout, on s'auto-censure un peu. Et c'est prouvé que quand tu as des chantiers groupés hommes-femmes, les hommes vont prendre la tronçonneuse et les tracteurs, et les femmes vont faire les petites tâches, quoi. Et alors que quand t'es que des femmes finalement, et puis Odile, moi je sais que le bricolage c'est un truc, ça m'intéresse pas en fait, et je sais que j'en ai besoin, si t'as forcément besoin de bricoler sur une ferme, et Odile a envie d'apprendre et d'être autonome là-dessus, et c'est ça qui rendra aussi l'autonomie de la ferme, et je pense que c'est plus facile peut-être pour toi de te lancer dans des choses, et que parfois quand il y a des hommes d'un certain âge, d'une certaine génération. On citera pas de nom, non. Et je sais pas si c'est que des hommes de cette génération, mais en tout cas, qui t'empêchent un peu. Tu devrais pas faire comme ça. Oui, mais moi j'ai envie d'essayer. Et du coup, nous, on essaye plein de choses parce qu'on se dit, de toute façon, tant qu'on n'aura pas essayé, tant qu'on n'aura pas eu un peu de casse, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis on apprend de nos erreurs, et si tu ne fais rien parce que tu n'oses rien faire, et tu restes avec tes croyances que tu n'es pas capable. Donc c'est clair que ça nous permet, je pense, toutes les deux de nous émanciper, mais on n'est pas fermé aux hommes du tout.
Pour reprendre, j'avais envie de vous poser une question sur des luttes féministes dans le milieu agricole. Est-ce qu'il y en a qui vous ont inspiré historiquement, ou des autrices, ou enfin, comment vous nourrissez ces questions-là?
L'historique des luttes féministes dans le milieu agricole, j'avoue, j'y connais rien. Et en fait, j'en ai jamais trop vu.
Donc peut-être que c'est un truc qui est invisibilisé aussi, mais en tout cas en lecture, je pense à une BD qui a fait, enfin qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Il est où le patron. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une pépite, et ça permet aussi de sensibiliser les gens qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Et comme c'est traité sur un ton humoristique, voilà, ça crispe pas forcément les gens.
Je rajoute que cette BD a été écrite par des paysannes en lien avec la conf dans je ne sais plus quelle région de France. C'est pour ça que ça parle aussi bien et que ça nous résonne. Voilà. Après, moi je pense aussi qu'on poursuit une lutte féministe générale, pas spécifique à l'agriculture. La richesse de notre projet, c'est aussi cette transversalité que l'on a avec d'autres partenaires, cette ouverture que l'on a avec des partenaires de la société et d'autres associations ou structures qui travaillent avec des femmes. Je pense que c'est vraiment la richesse du projet que porte notre réseau et qui fait qu'on s'ouvre et qu'on avance. Je pense que le monde agricole est extrêmement sclérosé, c'est un monde tabou où aussi, je pense, certains hommes subissent autant que les femmes et ne peuvent pas toujours réagir et parler et doivent faire parce que c'est comme ça depuis 50, 80 ans. Voilà, donc les luttes, on les suit plutôt des luttes classiques et on s'inspire aussi de ce qui sort. C'est un peu tendance depuis 4, 5, 6 ans d'avoir, en fait, suite au mouvement MeToo, de parler beaucoup de la femme. Donc des supports, il y en a eu plein. Mais on s'appuie aussi sur de travailler avec des fondations ou des intervenantes qui travaillent sur ce sujet-là, parce que je pense que ça nous permet aussi de comprendre qu'en fait que c'est pas non plus spécifique uniquement à l'agriculture, mais et de trouver en fait qu'est-ce qui pêche plus dans l'agriculture au-delà des clichés classiques. Voilà.
Alors, Vandana Shiva l'a montré, aujourd'hui dans le monde, la majorité des paysans sont des paysannes. Quelle image on se fait encore aujourd'hui du monde agricole? Bah, c'est souvent celle d'un homme sur un tracteur et pendant des pesticides dans un champ, voilà. Et on a aussi des études archéologiques qui montrent que ce sont les femmes qui ont maîtrisé en premier les cultures. Le pouvoir sur celle-ci leur a été progressivement volé par les hommes qui les ont ensuite invisibilisés.
Et les écoféministes comme Vandana Shiva ou Maria Agnès postulent que le dépassement du capitalisme et des systèmes de domination qui en découlent se jouera autour de l'autonomie agricole de chacun et chacune dans une perspective de subsistance. Cet horizon passe par une sortie complète de l'assujettissement des femmes et de la nature par l'homme. Et il crée de nouvelles perspectives pour un internationalisme qui ferait le pont entre les luttes écologistes, féministes et politiques.
On l'a vu pendant cette heure d'émission, il y a un long chemin encore à parcourir avant de rejoindre cet idéal. Mais on a vu aussi que l'organisation collective porte ses fruits pour combattre les inégalités de genre. Bien souvent, ces combats collectifs embrassent dans un même mouvement la défense du vivant, dans une perspective d'autonomie de l'individu et du collectif et de respect d'un bien commun. Et puis, il y a aussi des liens à faire effectivement entre les différents milieux et pour faire du lien entre des luttes entre le milieu agricole et le milieu non agricole.
On vous laisse le mot de la fin. Et Valérie, en particulier, tu disais quelque chose d'intéressant sur l'évolution du monde agricole.
Moi, en conclusion, j'ai espoir en fait que c'est la femme qui fera bouger les choses. Je suis persuadée en fait aujourd'hui que le monde agricole doit bouger et que la transition écologique, c'est pour tout de suite. Et on s'appuiera en fait sur des femmes qui sont plutôt issues de la société civile, qui ont envie aujourd'hui que ça bouge et que ça change. On a aussi un monde historique agricole difficile où en fait, par obligation, on s'installait de père en fils. Je pense que c'est plus le cas, et c'est pour ça que j'ai confiance pour que ce soit porté par les femmes et que peut-être enfin on arrivera à avoir une vraie agriculture paysanne et plus aussi intensive et surtout plus chimique.
Et vive l'intersectionnalité.
Yes. On va désannoncer les musiques. On a écouté Laura Perudin Follow Snow. On a écouté Pelada, Latido de Extinction. On avait encore Adelante Mujeres de la Tierra.
Et côté écoute, on vous conseille le fantasme La Bergère de Mathilde Billot. La super série en 7 épisodes sur les femmes paysannes de Claire Cache-Couche-Soucy. Ainsi que les deux volets de l'émission Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur les paysannes en lutte.
On vous conseille de lire le numéro 9 de la revue Panthère Première avec son dossier sur les mondes paysans au travail et l'article « Les paludières ne se sont pas arrêtées à leur genre, elles se sont battues pour faire changer les choses ». Merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Merci à toutes.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Salut. Ciao.